What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious.
En cette année 1891, des nuages lourds d'orage grondaient au-dessus de l'Europe. La France et l'Allemagne étaient à couteau tiré suite à une série d'attentats. D'aucuns accusaient les nationalistes, d'autres les anarchistes. Mais comme d'ordinaire, mon ami Sherlock Holmes avait une théorie toute différente.
Vous êtes sur le www.rdwa.fr
107.5 FM.
Vous êtes bien sur ATC.
RDIWA.
RDIWA qui veut dire...
La radio du Diwa.
Voilà.
Pourquoi tu prends ta voix de déprimé? C'est parce qu'il pleut?
Non, c'est parce que j'ai Gwen en face de moi.
Je comprends.
Merci.
Aujourd'hui, alors, on parle de...
Gwen au cinéma. Sir Conan Doyle.
C'est vrai qu'il y a un petit air.
Ouais. Oui,
ah,
tout à fait.
Il fait peur d'ailleurs. Alors, les adaptations des aventures de Sherlock Holmes.
Oui,
Holmes et son fier acolyte.
Oui, Dr Watson.
Voilà, ben je
merci.
Te laisse.
Donc, Sherlock Holmes est le personnage de fiction qui a été le plus représenté au cinéma avec plus de 260 films, et je ne parle pas des œuvres qui ont été perdues.
Et ouais. Les télévisions. Et...
Tout, tout compris. TTC.
Tout compris.
Oui.
TTC.
Oui.
Avec la nouvelle taxe 2014.
Oui. Donc, où il est, vous êtes toujours sur le 107.5,
oui, oui,
où
toujours.
Il est le personnage principal, dès les débuts de ce nouvel art, Conan Doyle.
Sir Arthur Conan Doyle.
Qui n'a rien à voir avec Conan le
barbare. Oui.
Déplorer que les enquêtes de Holmes fussent situées à l'époque où le film se tournait et non à l'époque victorienne, qui est celle des récits originaux.
Mm-hmm.
Tout à fait.
Tu as déjà lu des livres de Sir Conan Doyle ?
Absolument pas.
Moi non plus. Et toi, Gwen ?
Eh ben non, du tout.
Du D'accord. coup, je vous propose qu'on appelle quelqu'un qui en a lu.
C'est-à-dire Bernard Rapp.
Bernard Pivot ?
Ah, aussi.
Aussi. Que des Bernards, oui, oui.
Non, ma mère, depuis qu'on en parle dans cette émission.
Ah, ta mère. Non, bah, il faut savoir que c'est avant tout beaucoup, peu de romans et beaucoup de nouvelles. Hein. Il y a quand même, je crois, quelques romans.
T'as des nouvelles de ces romans ?
Il y a 4 romans et 56 nouvelles.
Non, mais.
D'accord.
Ah, quand même. Mais
entre 1887 et 1927.
Il faut savoir que Conan Doyle, il considérait pas les aventures de Sherlock Holmes comme quelque chose de sérieux dans son œuvre. Hein. C'était. Dès qu'il a pu arrêter de les écrire, il a arrêté.
Oui, parce que
pour se consacrer à des
mais
choses.
Mais oui, tout à fait, puisque le personnage de Moriarty, du latin moriare et verbe qui veut dire mourir, était là pour tuer justement
Sherlock Holmes,
et que sous la pression publique, et ben il a dû réinventer son personnage. Donc voilà, suite aux fameuses chutes de Rajenbach. Voilà, comme notre cher Rouletabille aussi. De Gaston Leroux.
On dit pas Bach, on dit Bach.
Bach.
Et on dit Rouletabille.
Rouletabille. Oui,
Rouletabille.
Oui, puisqu'il avait décidé aussi de tuer son personnage et que
les pressions sociales ont fait que.
Voilà, d'ailleurs, c'est un fameux coup de Jarnac.
Merci.
Continuez, Monsieur Hugo, s'il vous plaît.
Je vous prie. De cette erreur de départ découla plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation du personnage à des fins de propagande par les Américains qui l'opposèrent au Troisième Reich de manière anachronique. Oui. Les œuvres plus récentes s'attachent toutes à reconstituer l'ambiance victorienne.
Mmh. Ah bon ?
Ah oui.
Oui.
En gros, oui.
Oui.
Bah oui.
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 Bah écoutez, je pense qu'on n'a pas vu les mêmes œuvres plus récentes.
Non, tu confonds avec les récits, les séries.
Ah
oui, bah oui, oui, oui.
Moi, je parlais des films.
D'accord, ok.
Oui, on parlera plus tard de Sherlock via English et de...
Elementary
via
New York.
USA.
Parce qu'on n'est pas du tout dans l'époque victorienne. Bon,
Ah bah non. Non.
Non, non.
Oh, donc on
n'avait pas Internet hein, à l'époque victorienne.
Bon, vas-y.
Vaza.
Non, parce que l'ère victorienne va de 1837 à 1901, donc voilà.
Merci, monsieur l'historien.
Bah oui, excusez-moi.
Et ce qui gouvernait, c'était Victor Emmanuel ?
Non, c'était la reine Victoria.
Ah, c'est bien.
D'accord.
Victor Emmanuel, bah oui, mais c'est sûr, quand même c'était l'Italie.
Non, mais c'était quand même une grande époque, hein, je veux dire, pour la littérature anglaise. Oui, il y a Bram Stoker de Dracula, moi, Mary Shelley qui fait Frankenstein, oui. Le cas étrange du docteur Jekyll et de Mr. Hyde.
Jekyll?
Oui, oui, Mr. Jekyll.
Ah, d'accord.
Roger Jekyll, tu connais? Oui. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Oliver Twist, Charles Dickens. Donc voilà, il y a toute une pan de la littérature britannique. Voilà.
J'ai faim.
Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? Mais
en parallèle, de nombreux films se servirent d'Holmes comme d'un archétype de détective. À cet
un
égard...
archétype, peut-être.
Un archétype, ah, oui. Ouais. Ouais, ouais.
Je sais pas, moi.
Un archétype de détective,
ouais,
donc.
Ouais, ouais, c'est un archétype.
Du
ouais.
Détective. Ouais,
ouais, ouais, ouais. Il y a le triptyque et l'archétype.
Un soutif. À cet égard. L'anecdote révèle que le tout premier film, muet entre parenthèses, oui. Consacré à Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Baffled,
oui.
Est un film parodique mettant en scène un personnage anonyme portant casquette et fumant la pipe.
Oui, tout à fait. Oui, oui, il se fait voler, il se fait subtiliser un sac. Voilà, c'est un personnage qui disparaît. Tu sais, c'est l'effet, mes effets spéciaux à Méliès, le personnage qui disparaît à l'écran. On arrête la caméra et puis on la redémarre. Et donc voilà, et c'est en fait c'est le fameux Sherlock Holmes confus.
Ok.
Avec ces deux Olibrius, vous êtes toujours sur RDWAS 107.5 FM, www.rdwa.fr.
Oui, elle a repris le rôle à Carrie.
C'est pas vrai, c'est elle qui m'a inspiré, c'est tout.
Je peux appeler au 09-61.
Non, parce que je la trouve formidable, en fait, je suis un peu fan de cette personne. Et du coup, je me dis que si j'essaye de lui ressembler, vous m'aimerez plus.
Non, il faut que tu sois toi-même.
Donc,
be aware.
Donc j'arrête de dire 107.5 FM.
Non, tu peux le dire, mais tu peux être en tant que toi-même. Sois toi-même, prouve que tu existes.
Mais j'ai pas envie de résister.
Bon,
C'était l'appel du désir, bien sûr, qu'on pouvait retrouver tous les mardis soirs. Alors, plusieurs acteurs eurent le rôle de Sherlock Holmes, parmi eux l'interprétation de l'acteur britannique Peter Cushing.
Oui, le chien de Baskerville de 1959, de Terence Fisher, que moi je trouve est vraiment excellent et qui pour moi effectivement représente vraiment le Sherlock.
Best. Ouais. Dont la figure ascétique est devenue indissociable aux yeux des cinéphiles, tels que Gwen vient de le dire, de celle du personnage qu'il n'incarna pourtant qu'une seule fois à l'écran dans le chien des Baskerville de Terence Fisher en 1959.
Et si vous voulez le voir, c'est le fameux amiral du croiseur interstellaire de George Lucas. Voilà, si vous voulez revoir à quoi il ressemble un peu plus modernement pour ceux qui n'ont pas vu ce film de 1959.
Un peu plus modernement.
Oui, plus modernement. Oui, parce que RDWA, des fois, on invente des mots.
Surtout Gwen. Basile, donc, Rathbone.
Basile, détective?
Non, ça c'est Disney.
Oui.
Incarna le personnage dans pas moins de 26 films dans les années 40, hein, 1900 bien sûr. Devenant ainsi l'autre référence picturale du personnage. J'ai une photo. Tiens, regarde Annelle.
Ah oui, il a une casquette. Oui. Si, il a la fameuse casquette ouais. Avec
la
les
pipe.
Oreilles. Mais tu me laisses finir?
Je sens un froid.
Il a la casquette avec les oreilles qui sont remontées sur
les côtés. C'est pas une chapska, mais oui, je sais pas.
C'est britannique, non?
Oui, c'est hip. Bah oui, oui.
C'est hip-hop. Chapska. Ah non, hip-hop.
Ah, par contre, Basile Rathbone a été vraiment sous des, puisque c'était quand même plus américain, a vraiment fait pas mal de propagande américaine, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de références aux nazis. Il est souvent là pour lutter contre des complots d'espions allemands. Donc voilà, pas dans tous les films, mais dans de nombreux films. Et d'ailleurs, ce gère Basile Rathbone avait fait la série sur la BBC, donc plus de 260 épisodes entre 1949 et 1959. Donc il a vraiment habité ce personnage. Donc voilà, il y avait les premiers films commencent en 1939, donc avec le fameux chien, le chien de...
Excuse-moi de te contrarier. Baskerville. C'est plutôt en 1900-1903 le premier.
De
Sherlock Holmes, c'est les films muets, quoi.
Oui, 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 oui. Non, mais je te parle de Basil Rathbone.
Non, mais le premier film parlant, mettant en scène Sherlock Holmes, c'est en 1929, Le Retour de Sherlock Holmes.
Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait. Et c'est dans ce fameux film qui est, on dit la fameuse phrase, élémentaire, mon cher Watson, qui n'a jamais été écrite par Sir Arthur Conan Doyle. Voilà. Donc, monsieur Basil Rayburn, on y revient. Donc voilà, il y a aussi, donc le premier film est de 1939, oui, Le Chien de Baskerville. Ensuite, il y a Les Aventures de Sherlock Holmes, La Voix de la Terreur en 1942, où on l'a carrément à la radio, une voix d'une radio allemande, hein, prédit des sabotages, enfin... dicte plutôt des sabotages, puisqu'elle le dit en même temps, et qu'évidemment, les services secrets vont demander à Sherlock Holmes de faire une enquête, et il va découvrir que la voix de la terreur n'est autre que un membre imminent des services secrets anglais. Ensuite, il y avait, parce qu'il y a, durant pas mal de films, il y a aussi donc notre cher Basil Rathbun et aussi Roy William Neill. Donc ils vont faire plusieurs films ensemble, hein, de nombreux films. Donc là, on a carrément un pléthore de Sherlock Holmes et l'arme secrète, l'échec ou la mort. Pour une fois, pas de propagande américaine, mais un sombre histoire d'héritage, les Musgrave. Ensuite, il y a Sherlock Holmes à Washington. Et ben oui, parce que Sherlock Holmes se délocalise. Hein. Donc voilà, encore des espions allemands et une histoire de microfilm. Il y a les griffes sanglantes en 44, toujours de Roy Williams Neill, qui là par contre se passe au Québec, au Stade Tabernacle. Et oui, tout à fait. Ensuite, il y a La Perle des Borgia, une histoire aussi de buste napoléon qui reprend justement une nouvelle qui s'appelait Les Six Napoléons. Il y a La Femme aux Araignées avec des suicides inexpliqués. Et là, c'est une histoire d'araignées qui mordent les gens et qui les rend délirants et ces gens se tuent.
C'était donc des films pendant cette période ou des téléfilms?
Non, c'est des films. Toute la période de la guerre.
De Basile, hein. Ouais, d'accord.
De Basile et de Roy Williams Neill, ainsi que notre cher Nigel Bruce, qui jouait toujours ce cher Watson. Donc voilà, et il y a même une mission à Alger, c'est vous dire, hein, puisque là, Holmes doit protéger le prince de Rovinia. Donc une principauté qui n'existe pas, à bord d'un bateau et des lanceurs de couteaux russes. Voilà, il y a le fameux train de la mort. Et ensuite, La Clé, qui sera le dernier de toute cette série, avec Roy William Neill toujours. Et des fameuses boîtes à musique qui ont chacun un code, évidemment, que Sherlock Holmes va trouver. Parce que Sherlock Holmes, il trouve tout.
Pas toujours.
Des fois, il n'est pas bien.
Non, c'est vrai qu'il est pas bien, puisqu'il y avait le fameux film Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, là où on voit qu'il est carrément cocaïnomane et que ce cher Watson va l'amener voir à Vienne.
Freud,
tout à fait. Et qui va, là, il y a aussi toute une histoire d'un sultan qui a kidnappé une jeune fille, mais on arrive à la conclusion que, ma foi,
cette histoire de foi, hein.
Oui, tout à fait. On en parlera plus la semaine prochaine. Voilà. Mais non, c'est-à-dire parce que là, évidemment, il est dramatisé. Il y a tout un
il est dramatisé.
Vous êtes bien sur 107.5 dans la Drôme. La radio du
Diois. Radio R Diois.
Oui, parce qu'il adhère. Il adhère.
Diois, vallée de la Drôme.
Ouais. On va y arriver.
Qu'est-ce qu'il est dramatisé?
Oui, il est dramatisé.
Il est dramatisant aujourd'hui.
Gwen est un peu traumatisée, oui. Je propose qu'on...
Il a trottisé surtout.
On passe à autre chose.
Non, du tout,
donc
du tout,
vous
puisque,
êtes...
Non, puisque là, on apprend l'histoire.
Ah, il aime pas quand on lui coupe la parole.
Arrête. N'oublie pas que c'est le président de la ATC Corporation.
Non, mais enfin, tu parlais d'un film où il y avait Sherlock Holmes qui était cocaïnomane.
Oui, c'est l'Orient
Express.
Il allait
voir Freud,
oui,
avec le Dr.
Watson. Et il hypnotise et on apprend que le père de Sherlock Holmes a tué sa mère, Pascal Couchet, avec Moriarty.
Oh ah oui, non mais voilà, mais c'est aussi
scandale.
Ça, les aventures de Sherlock Holmes, elles ont été vachement romancées par tous ceux qui ont fait des films, ont mis un peu leur petite dose de...
C'est-à-dire que,
d'invention perso.
Bah oui, forcément, puisqu'on a fait les premiers épisodes, les premiers films, donc il fallait obligatoirement changer. Hein. Voilà, on a eu même Sherlock Holmes à New York, Sherlock Holmes au 22e siècle, voilà, le cryogénisé.
Excuse-moi de te couper... au grand vénéré. Est-ce qu'au début, là, le premier acteur, il était Coca-Cola Lennon Man?
Coca-Cola Lennon Man?
Oui. Non ou pas?
Bah, c'est-à-dire que dans l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, oui, effectivement, oui, Sherlock Holmes utilise la drogue
pour réfléchir,
voilà. Mais ça avait été le cas puisque c'est à la grande époque aussi. Il faut savoir que Baudelaire utilisait l'opium, lui, pour créer ses poèmes. Donc il y avait vraiment un grand courant.
Celui qui faisait des bisous à Rimbaud.
Oui.
Non, ça c'est Verlaine.
Bah, t'as pas dit Verlaine?
J'ai dit Baudelaire.
Ah pardon, excuse-moi.
C'était presque pareil.
Baudelaire.
Oui. Verlaine et Rimbaud.
On s'y confond tous.
Il y a un film.
Il se tire dessus. Hein. Il se tue pas, il se tire dessus. Voilà. Donc
oui,
évidemment.
Il fallait voir les gestes, c'est tout.
Oui. Bah, c'est-à-dire que radiophoniquement parlant, c'est pas super subtil. Et j'ai envie de donner.
Vous êtes égaré. Voilà, tu l'appelles Sherlock?
Élémentaire, mon cher Hugo.
Oui, parce qu'il faut savoir que Sherlock, est, dans l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, est un homme très sportif. Hein, il pratique la boxe, l'escrime. On le verra aussi dans de nombreux films aussi. Et puis, il est mélomane. Il joue le fameux violon, comme d'autres plus tard avec Philippe Marlowe joueront du saxophone pour les œuvres un peu plus noires des détectives privés.
Ou la clarinette comme Nestor Burma.
Voilà, c'est ça. Finalement, le détective doit être mélomane. Et effectivement, il y a beaucoup d'histoires de cocaïnomane. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'œuvres, surtout les premières, on a tendance un peu à éluder ça. Mais je pense que c'est aussi parce que moralement, ça se faisait pas trop de le dire. Voilà, on est arrivé à des personnages plutôt froids, comme à la Basile, Redbone ou autre. Et c'est vrai que je pense qu'il a créé aussi ces nouveaux personnages à la Robert Downey Jr. ou peut-être aussi dans la série Sherlock. C'est un autre personnage
qui... Ça y est, on bascule.
Oui, qui a créé aussi cette empathie vis-à-vis des gens... je dirais un peu autre, un peu autiste même, puisqu'ils ont... Non, mais socialement, parlons. Mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a...
Élodie, dans la série anglaise Sherlock.
Oui, mais tout à fait. Mais oui, mais
sorti en 2010.
Oui, voilà. Parce que pour moi, à un moment, ça a basculé. C'est-à-dire qu'effectivement, on disait qu'il était super intelligent, légèrement froid, mais on pouvait mettre ça sur sa condition plus britannique, il est vrai. Puisque le faire valoir, c'était Watson, on était toujours avec le clown triste ou le clown blanc. Et puis, à un moment, il y a eu cette apparition d'un personnage qui aussi fait beaucoup d'énigmes, mais dans le milieu de la médecine, c'est le Dr House. C'est-à-dire qu'on avait un homme qui voulait résoudre à tout prix ces énigmes médicales et qui arrivait à être super cynique. Et là, le public a vraiment embrayé dessus, a trouvé ça vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que depuis, on a eu ces créations de ce personnage où le public...
Je suis pas d'accord.
T'es pas d'accord ?
Je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, le Dr House, c'est une série où le personnage est un peu antipathique. Et finalement, il en devient sympathique.
Oui, mais voilà, mais c'est ça.
Mais pour moi, c'est pas du tout la même chose qui se passe avec le personnage de Sherlock Holmes, par exemple, dans la série Sherlock dont tu parlais. Donc, si on en parle,
vas-y.
Sherlock, c'est Mark Gatiss et Stephen Moffat qui ont fait ça. Il faut savoir que Stephen Moffat, c'est quand même celui qui a été scénariste pour le Tintin de Spielberg. Et il est scénariste pour la série Doctor Who aussi. Doctor Who.
Mais pas House, mais Who.
Et donc c'est avec Benedict Cumberbatch qui joue Sherlock.
Qui n'est pas une fille. Hein.
Oui. Non, qui est un garçon et qui fait aussi
le méchant.
Le Smaug et le nécromancien dans Le Hobbit.
Ouais, c'est ça. Avec Martin Freeman.
Et Martin Freeman.
Qui joue Watson et donc Le Hobbit.
C'est dans Le Méchant aussi dans Star
Trek. Mais Martin Freeman, il joue dans Ali G, dans Love Actually, dans H2G2. Dans...
Et puis, justement, Benedict Cumberbatch va jouer aussi Julian Assange, tu sais, de Wikileaks.
Ah oui.
Et là aussi, un personnage qui sait tout.
Enfin, donc, ouais, mais ça lui va bien, sa tête.
Oui, et Watson, voilà. C'est.
Et Watson, quoi?
Dans la série Watson, c'est...
Martin Freeman.
Voilà.
C'est ce que je te dis, qui a joué dans Ali G, Love Actually, H2G2 et Le Hobbit.
Mais justement...
J'ai loupé une phrase, je crois.
Non, mais voilà, mais c'est parce qu'il y avait aussi ce côté-là où, comment ça s'appelle, on avait pris Benedict Cumberbatch parce qu'il était assez froid, distant, voire quasiment un peu autiste. Et c'est pour ça que je dis que ça va très bien avec le côté du Dr House, c'est-à-dire que c'est des gens très intelligents, mais ils n'ont aucun rapport social. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un personnage tel que Dr. Watson ou même le collègue à
ça
à
dépend Dr. de l'acteur, je pense qu'on veut donner du réalisateur aussi.
Non, mais
parce que tu prends Jeremy, comment il s'appelait, qui a fait la série aussi en Angleterre là, de Sherlock Holmes, Jeremy Barrett.
Ça dépend de l'acteur, et en plus le côté antipathique de Sherlock Holmes il ressort pas dans... Enfin, il ressort un peu dans Sherlock, mais il est pas autiste, il fait des blagues en permanence, il drague les gonzesses, il... Enfin...
Il drague les gonzesses.
À mort ?
Tu trouves ?
Bah,
drague pas les gonzesses, Sherlock. Hein.
J'ai regardé un épisode ce matin justement pour réviser. Et,
de quelle saison ?
De la saison 3. Et,
quand tu as le mariage,
ça y va. Hein. Non, c'est avant le mariage, merci. Je vais regarder le deuxième en rentrant. Non, c'est
ah non, mais tu verras parce qu'il s'en sert, mais c'est juste un jeu.
Il s'en sert avec dans l'épisode Molly 3. Hopper.
Ouais, tu verras.
Bon, bref. Il est... Justement, je le trouve pas du tout autiste. Je le trouve très manipulateur de relations sociales, mais je le trouve très fort en relations sociales, justement. Il sait bien comment mener la danse et comment amener les gens là où il a envie qu'ils soient, contrairement au Dr. House, qui des fois est un peu justement submergé par ce côté-là des gens qui agissent. Et, ouais,
oui, mais socialement, je veux dire, il est...
Il est bon, socialement.
Ah, tu trouves ?
Ouais.
Moi, je trouve qu'il est super fermé. Et c'est justement le personnage de Watson qui est là pour l'aider. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mycroft, son frère, a indiqué que voilà, c'était bien que justement Watson soit là pour l'aider à justement s'intégrer dans la société.
Mais son frère, c'est pas mieux, Mycroft.
Je pense pas que ça soit pour s'intégrer dans la société. Je pense que c'est effectivement pour... il a pas besoin, Sherlock. Mais
oui.
Effectivement, ça lui simplifie la vie, ça lui fait une fenêtre, une vitrine, et ça l'aide des fois à pas dépasser certaines bornes. Mais il vivrait très bien sans Watson, il a pas besoin.
Mais de toute façon, Sherlock, il vivrait très bien tout seul, c'est juste que voilà.
Non, mais Watson, c'était le type qui rapportait, c'est justement ses récits.
C'est le commercial, quoi.
Notait tout, c'est lui qui notait le journal, parce que tu le vois aussi dans la série, là,
mais de toute façon, de toute façon, dans la version de Sir Arthur Conan Doyle, Watson, c'est le narrateur.
Voilà.
Et donc voilà, Watson, c'est le rapporteur, le narrateur, celui qui est là pour faire la pub, celui... Mais
Bah, moi, je dirais que aussi...
Mais... C'est celui qui cadre, quoi.
Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est celui qui cadre. C'est-à-dire que celui qui va justement... Puisqu'on le voit dans le film, dans les films de Guy Ritchie, voilà, il a ce côté où il va se marier, l'autre, il veut pas du tout se marier. Bon, évidemment, il y a l'idylle avec Irene Adler, voilà, qui est aussi...
Adler.
Oui, Irene Adler, ouais, qui est la seule femme à avoir réussi à duper Sherlock Holmes.
Moriarty l'a fait buter dans le 2,
voilà,
au
c'est
début
ça.
Du film.
Mais elle meurt. Hein, et
tu l'as pas vu, désolé.
Si.
Mais elle meurt même dans l'histoire, et même la femme de Watson meurt aussi, hein, puisque la fameuse, là où ils se disputent, là où il y a le duel final entre Moriarty, puisque finalement, dans l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, Moriarty et Sherlock Holmes ne se croisent que très très peu. Je dirais que je pense que celui qui le croise le plus, c'est Watson. Donc voilà, et il meurt donc en Suisse, hein, dans ces fameuses chutes. Sherlock Holmes disparaît pendant quelques années puisque le sbire de Moriarty, le colonel Sebastian Moran, va essayer de le traquer. Donc et puis finalement Sherlock arrive à le faire arrêter et il revient. Entre-temps, Watson avait repris sa clientèle puisqu'il est quand même médecin,
docteur.
Hein. Et puis sa femme est morte. Par contre là, il n'est pas indiqué pourquoi, comment. Et en fait, il va se remarier plus tard. Voilà.
Oui.
Et tranquillement, Sherlock va aller à la retraite.
Ça meurt jamais, quoi. Là, on voit aussi dans la nouvelle série Sherlock. Je vois la Moriarty.
La série.
Mais de toute façon.
La série, elle, ouais, non mais.
Non mais Mais de toute façon, ça c'est obligatoire. Ça fait partie des héros modernes. On a toujours droit à une seconde chance, c'est-à-dire qu'on passe très très près de la mort. On passe même pour mort et on
ressuscite.
Ah oui,
dans la série Sherlock, elle est bien faite. Elle est assez drôle. Et l'image est jolie. Il y a un beau travail sur la réflexion.
Oui, c'est Sherlock au temps moderne qui utilise les SMS, l'internet et est en train de jouer. Et puis avec des écrits sur l'écran.
C'est assez sympa. Après, il y a la série Elementary.
Oui.
Donc de Robert Doherty.
Non, qui se passe par contre à New York cette fois-ci.
Avec Lucy Liu, et celui qui joue donc Sherlock Holmes, c'est Johnny Lee Miller.
Oui, et c'est
celui qui fait le frère dans Dark Shadows.
Oui, et puis c'est aussi, il faut savoir que donc c'est Lucy Liu qui joue
tout
Watson.
Docteur Watson, c'est voilà. Joan Watson.
Non seulement une femme, mais une asiatique.
Parce qu'ils ont fait une première saison de 24 épisodes et il y a la deuxième qui est à venir.
Et là par contre, Moriarty...
Elle est en train de sortir,
voilà.
Elementary,
ouais. Je crois qu'on en est au cinquième épisode.
Moriarty est joué par une femme.
Ah oui. Ah d'accord. Et je sais qu'en 2013, là j'ai sous les neuils, il y a un petit drapeau russe à côté, donc ils doivent sortir aussi eux une Sherlock Holmes. Une série de 16 épisodes à venir.
Oui, parce qu'il faut savoir que tu fais très bien de m'en parler.
C'était pas innocent.
Oui, oui, merci, puisque il y a eu une série Sherlock Holmes russe d'Igor Mazelinkov. Et donc 5 téléfilms qui ont fait en tout 11 épisodes. Ça a été reconnu au niveau international puisque l'acteur Vassili Lianov, qui joue donc Sherlock Holmes, est assez décontracté, est un homme qui a un humour assez discret et qui correspond véritablement à ce que représente Sherlock Holmes pour Sir Arthur Conan Doyle.
C'est bizarre parce que...
Mais même à l'époque, je crois, plus en avant de ça, ils ont fait des films ou des téléfilms aussi.
Oui, mais celui-là, il a vraiment eu un grand succès dans toute la période soviétique.
Non, mais c'est marrant que la période soviétique soit intéressée à Sherlock Holmes.
Oui, mais c'est ça. Et puis, c'est-à-dire qu'on faisait aussi beaucoup de travail sur les grands classiques, puisqu'il y a aussi eu Les Trois Mousquetaires, toute la littérature européenne est passée dessus, quoi.
C'est bizarre, parce que pour moi, Sherlock Holmes, c'est moi, j'ai vu les films de Guy Ritchie et les deux séries, et c'est un mec qui est super blagueur et mesquin et qui fait.
Non, moi je trouve que ça ressemblait trop à Iron Man, le rôle qu'il faisait,
c'est
son
vrai,
attitude.
Oui.
Et après, moi je me suis pas retrouvé.
Mais c'est pour ça, moi franchement, je trouve que ça a basculé sur autre chose. On a vraiment fait un type qui sait beaucoup de choses et plus ce côté enfermé. Désolé, je lâcherai pas. Mais voilà, et donc évidemment, avec un humour certain et un certain humour. Et, là aussi, personnage de Mycroft qui ressort, puisque là dans le livre, il est peu usité. Mm. Là évidemment, on en parle bien plus, puisque dans la série, il est vraiment omniprésent. Dans la série, dans les deux films de Guy Ritchie, un peu moindre, mais voilà quoi.
Ils vont en faire un troisième de film ? Non, c'est pas prévu ça. Je crois pas d'ailleurs.
Je crois pas, mais bon.
Si, ils font un troisième film. Guy Ritchie sort le 3 en 2015, excusez-moi.
Très bien, merci.
Ouf. Non, oui, il fait un triptyque. Ouais,
ouais, mais ça m'étonne pas.
Évidemment.
Mais de toute façon, techniquement, ni Moriarty, ni Sherlock Holmes ne sont morts dans ces films.
On
le voit
à la fin pour Sherlock Holmes.
Voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même bon, Guy Ritchie. C'est celui qui a fait Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, Rock'n'Rolla, entre autres. C'est quand même
des
bons films.
Non, on ne dit pas que les films sont mauvais.
Et encore une fois, le travail de l'image est assez extraordinaire.
Ah oui, franchement,
quoi.
Moi, je trouvais que son rôle, comment il interprétait le rôle, et c'était trop calqué sur Iron Man.
Et comme c'était un peu à la même période, du coup, effectivement, je comprends que t'aies pu glisser un peu.
Sinon, les films sont bons.
Ah ouais, ouais.
Le 1, je trouvais ça très bien.
Et moi, j'aime bien Jude Law dans ce rôle.
Moi, je trouve que, tu vois, là, pour autant, on a vraiment trouvé un duo d'acteurs qui vont très bien ensemble. Parce qu'effectivement, que ce soit dans ce côté un peu exubérant de Robert ou dans le côté un peu plus physique de Jude, je trouve ça excellent.
Vous êtes toujours sur le 107.5 FM et on est amis avec Robert et Jude Law.
Et oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque.
Là, surtout qu'en ce moment, de l'eau, on en a.
Non, mais en plus, moi, je...
Il pleut.
Non, mais je trouve qu'il y a...
cinéma.
Il y a un superbe parallèle à faire, puisqu'il faut savoir que Watson a quand même fait la guerre en Afghanistan, à l'époque. Hein, donc
C'était aux Indes.
Non, c'était en Afghanistan.
Ah
non,
oui,
c'était la première et seconde guerre en Afghanistan dans les années 1800. Et il a été blessé, il est revenu et c'est pour ça qu'ensuite il avait droit à une petite retraite. Et c'est pour ça que d'ailleurs il s'est installé avec Sherlock Holmes au fameux 201B.
221.
Baker Street.
Baker Street, voilà. Et là, il se trouve que dans la série Sherlock, il a aussi fait l'Afghanistan. Mais là, par contre, c'est vraiment une autre histoire. Je trouve ça vraiment très
intéressant. Vous avez vu Les Orphelins de Baker Street ?
Non.
La BD ?
Non.
C'est rigolo.
Super.
Non, mais ça se passe sur Baker Street et des fois ils rencontrent Sherlock Holmes. Ils donnent des infos à Sherlock Holmes.
Et d'ailleurs, ce qui est très marrant quand on lit Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, c'est qu'à l'époque, le 221 n'existait pas. Maintenant, il existe puisque la rue s'est allongée, mais à l'époque, elle n'existait pas. Donc,
il y a quelqu'un qui habite au 221B, Baker
Street. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu beaucoup de... puisqu'en fait c'est donc la fameuse Madame Hudson qui est donc la propriétaire qui le loge donc à l'étage.
Alors que, voilà.
Et par contre elle c'est très marrant parce que on en a fait une tendance plutôt une vieille dame hein, la propriétaire, alors que il est fait dans certains films que c'est une jeune fille et notamment dans les fameux Sherlock avec Miyazaki. Là c'est carrément Marie Hudson et là c'est carrément
Hudson d'ailleurs, c'est pas Madame Watson qui l'appelle.
Non, c'est Hudson.
Ah oui.
Non, et c'est vraiment...
C'est plutôt Hudson même.
Hudson, mais... oui. Quand le Hudson River. Et donc, voilà, et c'est vrai qu'en plus...
Ouais, les personnages, c'est des chiens.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la télévision italienne, donc la RAI, avait décidé de prendre vraiment, de faire donc l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, et donc a demandé à ce que des Japonais participent. Donc là, c'est à l'époque, c'était les studios Ghibli n'existaient pas. Et donc, ils sont venus, donc il y avait Miyazaki, ils ont fait 6 épisodes, donc effectivement, avec des têtes de chiens, et Moriarty se trouve avec une tête de loup. Là, le personnage de Madame Hudson est vraiment très très forte, puisqu'il y a le fameux épisode où elle se fait kidnapper. Mmh. Et là, elle est pleine de vie, pleine d'énergie, et finalement tout le monde tombe amoureux, que ce soit Holmes, que ce soit Watson, ainsi que Moriarty et ses deux sbires.
Tous amoureux de Madame Hudson, celle voilà. Qui fait le thé.
Oui, mais dans la série de Miyazaki, elle est vraiment plus jeune. Hein. En fait, c'était Marco Paggio et Gina Paggio qui avaient fait cette œuvre, qui a eu 6 épisodes, puis ça s'est arrêté puisque la
RAI... C'était en 1984-85.
Ouais, c'est ça. Puisque la RAI avait décidé que ça marchait pas et ça a refait plus tard. Il y a eu, je crois, une vingtaine d'épisodes. Là, par contre, Miyazaki n'y était plus. Mais il a vraiment donné cette force à ce personnage féminin de Madame Hudson. Et il a quand même gardé beaucoup de cette collaboration, puisque dans Porco Rosso, évidemment, il donne le nom de Marco à l'aviateur et de Gina à cette femme qui garde, et que il faut savoir que dans la série, donc Madame Hudson est veuve et son mari était aviateur pendant la guerre.
Puisqu'on est dans les films d'animation temps foncé. Donc en 1986, on retrouve le Mister Basil, détective privé, un film d'animation de Disney que
voilà, tout à fait.
Canal a vu.
Oui, avec sa casquette et son imperméable.
Voilà.
Basile.
Un autre petit mot dessus.
Basile de Coq.
C'était formidable.
Voilà.
C'est un peu comme Bernard et Bianca, mais en mieux.
Ah oui.
Oui.
Et là, c'est une histoire de souris, par contre.
Oui.
On n'est plus dans les chiens et les chats.
En 1999-2001, on trouve Sherlock Holmes au 22e siècle. Pardon.
C'est naze.
26 épisodes de Scott Hemming et de Paul Quinn.
Ah, c'est naze.
De d'accord. Quoi donc Sherlock Holmes.
Ouais, Sherlock Holmes, tout court.
Bah, c'est-à-dire que en fait,
siècle.
Ça s'appelle Moriarty a créé un clone de lui et en fait, il est dans le futur et donc il décongèle Sherlock Holmes. Mais bon.
Et il y a Inspecteur Gadget, c'est pas tiré un peu de Sherlock Holmes?
Non, du tout.
Enfin, il a une casquette quand même. Hein.
Il a un chapeau.
Oui, il a un chapeau. Je dirais plutôt un chapeau, comme ça s'appelle, à la Panthère Rose. Hein.
Mmh. Bon, d'accord, ok.
Donc en 2006, on retrouve Sherlock Holmes and le Dr. Watson, The Murder of Lord Waterbrook. Donc c'est un cartoon, c'est un cartoon russe sous-titré en anglais d'Alexandre Bubnov. En 2009, il y a la Corne du Démon, c'est un épisode de la série Batman. C'est l'alliance des héros dans lequel les deux détectives font équipe.
Et il y a aussi dans... celle-là, c'est pas de l'animation, mais c'est dans les séries, puisqu'il y avait quand même eu carrément un Star Trek New Generation, où là, ils avaient fait un espèce d'ordinateur, et donc ils avaient créé une histoire de Sherlock Holmes. Évidemment, le héros va trouver tout de suite la solution, puisqu'il a déjà lu l'œuvre, donc ils vont créer un sorte de vraiment professeur Moriarty très fort, et que là, par contre, ils vont mettre carrément la série, enfin du moins l'entreprise en danger.
D'accord. Mais je pense quand même le film qui est le plus récurrent au niveau des Sherlock Holmes, c'est quand même le chien des Baskerville.
Oui, tout à fait.
Ouais. L'épisode, ouais. Mmh. Alors celui-là, il a été adapté des milliards et des milliards de fois.
Ouais.
Et en même temps, c'est parce que ça illustre bien tout le côté magique et en même temps où on démystifie et enfin c'est Sherlock Holmes quoi.
Oui, parce que donc c'est en fait c'est une terrible malédiction qui dure quand même depuis 200 ans qui frappe la famille des Baskerville hein, décimée par un chien monstrueux depuis que un certain Hugo des Baskerville tua une paysanne en 1790. Mais voilà, l'héritier qui vient de Johannesburg, donc de République sud-africaine, n'en croit pas et donc il va essayer de trouver la solution. Il faut savoir que c'est Christopher Lee qui jouait le Sir Arthur de Baskerville et qu'il y aura un film plus tard, donc Sherlock Holmes et le collier de la mort, donc toujours de Terence Fisher et de Frank Wittgenstein. Et là, par contre, c'est Christopher Lee qui jouera Sherlock.
Ah, comme quoi.
Non, mais je veux dire, c'est quand même très fort, puisqu'il faut savoir que Christopher Lee a fait les Dracula, et en plus, il se fait...
Sherlock.
Donc voilà.
Mais en tout cas, Sherlock Holmes, c'est... T'as dit au début, plus de 260 adaptations. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils mettent un peu leur... leur pensée perso, comme
je disais. Justement, ça me fait, tu fais bien de me dire ça, puisque en 1970, donc la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. Donc voilà, donc au début, on commence, Holmes et Watson sont invités à l'opéra, et là, il y a une danseuse russe qui dit qu'elle veut avoir un enfant de Sherlock Holmes pour avoir un être intelligent, et en fait, celui-ci dit que c'est pas possible parce que Watson est son compagnon.
Voilà, donc chacun interprète un peu comme il veut. Hein.
Voilà, et c'est fait. Et donc c'est avec Peter O'Toole et Peter Sellers, et Mycroft est joué par Christopher Lee.
Nous avons ici un fan de Christopher Lee. Gérard Dubois.
Oui, c'est ça.
Et en 1985, on a aussi le secret de la pyramide.
Ah oui.
C'est le Young Sherlock Holmes.
Ouais, tout à fait, ouais.
De Barry Levinson, dans lequel on apprend comment Holmes et Watson ont fait connaissance au collège.
Et qu'il est tombé amoureux de cette fameuse Elizabeth. Oui.
Et qu'il lui dit, quand il se rencontre, il voit Dr. Watson et le Dr. Watson lui dit « Mais qui êtes-vous » Et Sherlock Holmes lui fait une description de lui en 2 minutes.
Voilà, grâce à...
À une tache qui est sur son vêtement, un pin qui est là. Tu vois cette scène magique.
Voilà. Il est pas mal celui-là, je laisse regarder. Quoi.
Oui. Et puis c'est
je crois
là
qu'il
aussi
est passé à Noël.
Oui, et c'est
là aussi... c'est un film de Noël.
C'est aussi la création du personnage de Moriarty. Aussi. C'est le type là qui est
dans Ratti. L'ombre.
Oui, c'est l'ombre. Et en fait, lui, quand il tombe dans la Tamise, il sort de la Tamise, il va dans un hôtel et il signe sur le registre Moriarty.
Et donc en 1988, il y a aussi un élémentaire, mon cher, plus loin, Without a Clue, de Tom Eberhardt avec Michael Caine et Ben Kingsley.
Moi je trouve que c'est quand même marrant parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de films, et c'est vrai que dernièrement il y a eu quand même un creux entre les années 70 enfin 80 il y
et avait les années 2000
non, mais les années 2000
il y avait des séries qui le remplaçaient ABC
et la BBC aussi,
donc je crois que c'est celui que je te parlais tout à l'heure là, qui est joué par Jeremy Barrett ou Garrett je sais plus, l'acteur anglais là. Il était vachement bien, ça se passait sous l'époque victorienne et je trouve que c'est une des meilleures série sous l'époque victorienne. Ce Sherlock Holmes s'appelait. C'est passé dans les années 80-85, c'était diffusé sur France 3 à l'époque, quand ils diffusaient aussi les Monty Python et tout ça.
Il n'y a jamais vraiment eu de pause. Hein. Sherlock Holmes, ça passionne toujours les fous.
Ouais, je pense, ouais.
Les grands mystérieux comme ça qui sont plus intelligents que les autres.
Parce que regarde même dans le film Au nom de la rose, à un moment donné, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Baskerville, non ?
Ouais, c'est Guillaume de Baskerville.
Voilà.
Donc. Et qui est joué par Sean Connery.
Je
pense
que toi, il y a des clins d'œil un peu.
Ah oui, mais bien sûr. Oui.
Oui, et puis tout le monde connaît Sherlock Holmes, même si, étant enfant, j'avais pas forcément vu les films ou lu les livres, mais je savais qui était Sherlock Holmes. Enfin, c'est quelque chose.
Oui.
Pourtant, c'est pas français.
Rien qu'avec Élémentaire, quoi, déjà.
Élémentaire, mon cher Watson.
Oui, voilà, oui. Je pense que aussi, le personnage de Sherlock Holmes, créé donc par Sir Arthur Conan Doyle, à l'époque où l'Angleterre donc est vraiment dans son ère victorienne, là où le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, et aussi le moment où la science commence à dominer Dieu, et donc on a vraiment un personnage qui arrive à déduire tout, à être super intelligent, et je pense que ça...
C'est après, tu penses, amener aussi Agatha Christie vers Hercule Poirot.
Voilà, c'est ça, tout à fait, mais il y a aussi toutes ces enquêtes, hein. Et puis je pense que c'est aussi la police scientifique qui avance vis-à-vis des anciennes méthodes, hein, qu'on voit aussi un petit peu dans Sleepy Hollow, hein, quand Cabot Crane essaie de trouver des méthodes scientifiques alors qu'on préfère torturer les gens plutôt que de les faire avouer. Donc il y a aussi toute cette avancée qu'on voit
tu
aussi...
vois dans les Sherlock Holmes.
Oui, voilà, tout à fait aussi, et puis dans le Robert Downey Jr. avec ce siècle qui avance, donc voilà, et qui amènera plus tard avec nos séries, fameuses séries américaines, les experts, hein, puisque là c'est carrément la police scientifique.
Oui, mais là ils réfléchissent plus.
Non,
meufs, elles ont leurs cheveux, elles font des expériences.
Ça fait penser à ça.
Je vois pas pourquoi est-ce qu'on parle des experts là dans Sherlock Holmes. Digression pourrie.
Mais pas du
tout. Hugo a posé son casque, il est en train de sortir du studio. Attention, il claque la porte. C'est fini, on l'a perdu.
Super.
Youhou. Mais les experts,
plus, il serait
joli
que je sois parti. T'as entendu, il a fait youhou.
T'es super revenu vite, hein.
Oui, je suis partout.
Non, parce que moi ça me fait toujours penser quand
Chris. Non, ça fait pas penser à ça.
Mais si,
il a vibé de télé, ce type.
Mais quelle horreur.
Mais pas du tout.
Mais les experts à Miami, les experts à Los Angeles, les experts à Manhattan, les experts.
Mais oui, mais non, mais parce que quand Grissom il sort des trucs.
Je ne sais même pas qui c'est Grissom.
Mais c'est l'expert à Las Vegas. Et voilà.
Ah oui, Las Vegas.
Ah oui,
Las Vegas. Et oui, mon grand. Donc voilà, mais c'est moi, ça me fait délirer ces types qui savent. Oui, alors voilà, c'est oui. Une trace de pneus. Oui, parce que c'est une Ford. Je sais, parce qu'entre 1965 et 1967, ils avaient fait de changer le caoutchouc.
Non, c'est faux. Faisait... Ils prennent une photo du truc et ensuite ils l'emmènent au labo.
Non, mais Grissom, ça, il le sait. Grissom, il sait tout. C'est ça le truc.
Le grand gourou.
C'est ça le truc. C'est parce que c'est le grand gourou, c'est parce qu'il
c'est
sait
tout. C'est le roux là.
Voilà.
Non, c'est celui qui est le mieux payé.
Voilà.
D'accord.
C'est le grand chef. Donc voilà.
Bon, donc j'aimerais qu'on finisse sur une note de Sherlock Holmes, s'il vous plaît, parce que alors là, finir sur les experts,
ah,
ça m'arrache.
Ah, mais c'est vous qui avez lancé.
Je suis finir son.
Comment
idée.
Ça, on a lancé ?
Ah, ben moi, j'allais juste faire un petit saut de puce et tout. Hein. C'est vous qui avez lancé dans des diatribes.
Nous voilà. Accuse d'estomber.
Pardon, c'est toi qui parles des experts.
Mais oui, mais ça a amené à ça. C'est la version américaine.
Donc pour Sherlock Holmes, regardez donc Elementary, la saison 2 est en train de sortir, c'est vachement
Sherlock
bien.
Sherlock aussi.
Elle est bien
avec
en fait. T'as regardé dans le début.
Ouais, c'est ouais. Vachement bien avec donc Lucy Liu qui joue le docteur Watson. Donc ça apporte une petite touche féminine, c'est sympa. À quand un Sherlock Holmes femme, je ne sais pas. Pour la série Sherlock, c'est des saisons de 3 épisodes qui font 80 minutes environ. Il y a la saison 1, la saison 2 et en ce moment, c'est la saison 3 qui sort.
Oui.
On est d'accord. Mmh. Et donc pour les films de Guy Ritchie en 2015, le troisième, comme je vous disais tout à l'heure, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Non, il n'y a que Robert Downey Jr. et Jude Law. Il n'y a même pas de date de sortie exacte. Il y a juste marqué 2015.
On ne sait même pas si Kelly Riley, elle sera.
On sait juste que c'est Guy Ritchie qui reprend.
Il y a Jason Statham, je crois.
Ah ouais?
Non. Comme il fait le méchant dans Fast and Furious.
C'est Sylvester Stallone.
C'est sa guerre. Oui. C'était donc Sherlock Holmes, les adaptations du cinéma.
Voilà, tout à fait.
De la série. Et
oui, donc effectivement, série, film, animation. Merci Miyazaki.
Et théâtre aussi, je crois.
Et théâtre aussi,
théâtre,
c'est vrai.
Radio, ouais.
Et
il y a
radio.
Des émissions
aussi.
De radio. Mmh. Sur
tout
le
à
thème.
Fait. Bah, c'est-à-dire que c'était aussi l'époque. Hein.
Donc Sherlock Holmes, si vous en voulez, il y en a.
Oui, il y a beaucoup de films. Évidemment, il y a du navet, il y a du très bon.
Il y a des romans aussi.
Voilà, à lire, et des nouvelles aussi. Et voir surtout celui de Terence Fisher, le chien de Baskerville.
Oui.
Vraiment à voir celui-là. Plus pour les anciens, évidemment, maintenant on est balayé par Robert.
Ben moi, la série
ouais,
Sherlock.
Les effets spéciaux sont. Ouais, aussi, oui. Ouais. Mais je te dis, si t'as l'occasion de regarder cette série, je crois qu'elle est sortie des années 80.
Sur la BBC ? Non, ABC.
Ouais, ABC. ABC. Qui s'appelle Sherlock Holmes. Je crois que c'est Jeremy Garrett. Faut regarder ça, mais.
Je vais regarder
ça. Il est vachement bien.
Ok.
Voilà. Eh bien.
Si vous aimez l'époque victorienne.
Oui, évidemment.
Avec plaisir. Quand c'est toi qui conseille, on aime toujours.
Merci. Oui.
Et donc nous tournons.
Vers le rocher.
Voilà. Le pestelis.
Pourquoi tu dis le rocher à chaque fois ?
Bah, parce qu'il s'appelle le pestel, le rocher.
Non, a dit un rocher.
Oui, qui s'appelle le pestel.
Voilà,
oui.
C'est ça.
D'accord,
d'où
donc on dit
le
rocher. D'accord, ok.
C'est celui
qui
n'a
rien à voir avec Suchard.
Non, mais c'est pour ça que je ne me comprenais pas. Alors, j'y vais, parce que j'ai fait plein de recherches.
Salut, hein. Ouais.
Alors, du 22 au 28 janvier, on est d'accord sur les dates ?
Oui.
Oui. Ça commence par Suzanne, donc c'est un film français d'1h34 qui est réalisé par Catel Quillevert, je ne sais pas vraiment comment on dit ça, avec Sarah Forestier, François Damien, Sadel Hanel.
C'est un deuxième film, je crois, elle. Hein.
J'ai pas fait de recherche sur Catel Quillevert, mais en tout cas, c'est pour Sarah Forestier
une renaissance.
Non, mais attends, là elle arrive, elle a commencé dans l'esquive avec Kechiche. Elle
dans l'esquive
dans l'esquive.
Ah, pardon.
Avec Kechiche. Elle a fait plein de films, dont Le Nom des gens, qui est ma comédie préférée depuis qu'elle est sortie, de Michel Leclerc. Cette année, en 2013, elle avait sorti Mes séances de lutte, de Jacques Doyon. Mm-hmm. En 2014, le 15 janvier 2014, tiens, elle est sortie dans un film de Arnaud et Jean-Marie Larrieux, L'amour est un crime parfait.
Oui, tout à fait.
Avec
oui.
Mathieu Amalric.
Ouais.
C'est Amalric. Vous arrêtez de dire Almaric, s'il vous plaît, les garçons.
C'est comment ?
C'est Mathieu Amalric.
Almaric ?
Amalric. Oui, Amalric. Ouais.
On ne sait pas, il n'était pas là.
Avec
on dira Al tout court.
Avec Karine Viard, Maïwenn et tout ça. Et il faut savoir que donc Sarah Forestier, je parle toujours d'elle, l'actrice principale de Suzanne, elle va sortir
prix,
son
hein.
premier film qui s'appellera M en 2014.
C'est sur
avec
guitariste.
Adèle Exar. Chopoulos, la
oui.
fameuse de
Adèle.
La vie d'Adèle. Donc
Sarah
Forestier, non je ne pense pas. Sarah Forestier, donc, dans Suzanne, avec François Damiens. François Damiens joue le père de Sarah Forestier.
Un routier.
Sarah Forestier tombe enceinte à 17 ans. Elle abandonne tout pour un homme, a priori.
Julien.
Pendant...
Mais est-ce que... Et qui est un jeune voyou. Quelle actrice
Sarah Forestier, elle doit avoir 24, 25 ans, je crois. Et elle abandonne tout pendant...
Deux, trois ans.
En fait, après, elle est retrouvée et accusée.
Oui, parce que lui il a fait une
connerie. C'est un bandit, ouais.
Voilà, donc elle le suit. En fait, il y a la cavale et elle se fait attraper.
Elle est accusée de complicité. Elle a abandonné son gamin et qui est placé en famille d'accueil et tout. Enfin, c'est l'angoisse. Et apparemment, c'est un maniement d'ellipse qui est assez fantastique.
Oui, et en plus,
c'est elle qui tient le film.
Oui, mais François Damiens aussi en contre-emploi extraordinaire. Et Adèle aussi, qui est en petite sœur admirative. Effrayée et aimante.
C'est un film sur la résilience. Quoi.
Non, je pense que c'est un film sur la famille, en fait, sur les liens familiaux plutôt. Mais effectivement, il est tenu par ses acteurs.
Et puis
aussi, le scénario est pas.
Non, et aussi pas. Ouais, je dirais pas par l'amour aussi, parce que cette femme qui quand même abandonne enfant et
famille. Enfin, elle a 17 ans, donc elle est débile, c'est tout.
Ok.
Mais non, mais c'est une ado. Excuse-moi.
C'est un portrait de femme quand même.
Oui.
Oui, d'accord. Oui.
C'est
elle
la
a
portrait
eu un prix,
de femme
crois,
à travers
plus,
le... pour ce film.
Ouais, c'est un Valois de la meilleure actrice au 6e festival du film francophone d'Angoulême en 2013.
Tu m'étonnes, mais elle est géniale cette actrice. Moi, à chaque fois, elle me transporte, elle me bouleverse. Il y a un truc qui, elle est formidable vraiment. Elle peut tout jouer. Elle est tantôt vulgaire, tantôt pas du tout touchante. Comme si elle arrivait, elle t'attrapait le cœur et après elle t'emmène là où elle veut. Non, mais c'est fou. Il y a des acteurs comme ça.
Ah oui.
Bon, toi, tu la touches pas. Donc, Suzanne, de Katel Kilver. Ensuite, il y aura les rencontres d'écologie au quotidien.
Oui, tout à fait, pendant 2 semaines.
Donc, du coup, il y a 3 films pendant 2 semaines sur les rencontres de l'écologie au quotidien.
Il y a 3 films et une semaine et 3 films la semaine prochaine.
Voilà,
mais il y a un film qui sera sur les 2 films.
Ouais, en fait, il y a 5 films en tout. Au bord du monde, de Klaus
Drexel. Qui est déjà passé, en plus.
Drexel.
La période de Noël, celui-là, non?
Non, c'est une sortie nationale.
Non, mais elle avait déjà passé, Kate.
Bah non, c'est pas possible si c'est une sortie nationale.
Si elle a passé pendant les fêtes de Noël.
Vous l'avez répété plusieurs fois, c'est marrant.
Non mais elle avait déjà passé. Non mais elle avait déjà passé.
Bah non, c'est pas possible. Si
elle a passé pendant les fêtes de Noël.
C'est pas possible si c'est une sortie nationale.
Si si, parce que regarde tante Hilda. Tu vois, c'est juste à côté. Tu vois, c'est sorti en avant-première. Ça s'appelle des avant-premières, madame.
Voilà, elle avait passé en avant-première.
Ah d'accord, en avant-première.
C'était le 24 ou je sais pas quand.
Ah oui, le 24 décembre au soir, c'était ça. Bon, alors je retire.
Elle se retire.
Klaus Drexel, il filme les sans-abri à Paris.
C'est un documentaire.
Oui, c'est un documentaire.
A priori, c'est avec humour.
Tout à fait. Oui.
J'ai toujours un peu peur de cette gêne quand t'es dans la salle de cinéma par rapport à la rue, même si c'est sans misérabilisme. Merci, quoi.
C'est sûr que c'est difficile. Paris by night, on interview
des gens qui sont dans la rue, qui ont froid.
Ouais, mais ça dépend comment c'est abordé le sujet.
C'est comme il demande à une dame qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid. Et la dame lui répond très simplement je grelotte.
Oui, elle rigole. Klaus Drexel, il a quand même fait en 2008 une comédie qui s'appelle Affaire de famille. C'est son seul autre film avec Dussolier et Miu Miu.
Miu Miu!
Avec Miu Miu. Mais a priori, le film est beau.
Oui,
et
les
touchant.
Sont, oui.
Et qu'il n'y a pas de misérabilisme.
Voilà.
Donc, ok, mais moi j'ai toujours un peu honte de quelque chose. Je me sens responsable d'un truc quand je suis au show dans ma salle de cinéma et que je vois les gens dans la rue, quoi.
Bah, techniquement, on peut aider, mais voilà, on peut pas changer le monde à soi tout seul.
Bon, d'accord.
On ne peut pas porter la misère de tout le monde sur les bras. Quoi.
Tout à fait, mais du coup, c'est vrai que c'est des gens qu'on oublie finalement quand on passe à côté d'eux. On oublie presque qu'ils existent. Enfin, c'est ce qu'ils disent, en tout cas dans la bande-annonce.
D'ailleurs, ça, c'est un film qui aurait dû mériter pour être plus connu, de passer à la télé. Quoi.
Ouais, je crois aussi.
Oui, tout à fait. C'est effectivement.
Oui, parce que c'est bizarrement, c'est toujours au moment de l'hiver qu'on passe ce genre de film. Puis l'été, bizarrement, ces gens qui sont dans les rues, on les oublie.
Oui, et puis même toi, quand tu passes à côté de quelqu'un dans la rue, c'est normal, enfin c'est partie du paysage finalement presque. Je le dis pas non sans honte, mais c'est vrai. Soyons francs, y a pas de et alors qu'il faudrait pas, mais bon, c'est compliqué. Donc pour ça, allez le voir.
Et ensuite... après les trottoirs, l'assiette.
Ouais, alors la santé dans l'assiette, par contre, je suis beaucoup plus critique. C'est un documentaire encore de Lee Fulkerson.
Oui.
C'est sur la nourriture.
Voilà, ben oui, parce que c'est-à-dire que
sur les maladies en fait, non, liées à la nourriture, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Ça a l'air d'être hyper simpliste quand même. Ne mangez plus de viande et comme ça vous serez plus malade.
Je crois que c'est super centré sur les steaks quand même.
Et hyper sur les steaks, c'est sur une étude qui a été menée.
Bah oui,
ne mangez plus de trucs animaux et tout ce qui marche et tout, vous avez pas, vous en mangez plus et vous allez voir que votre santé va aller mieux. Mais il y a surtout le fait que la relation à la nourriture, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on le croit. Elle est beaucoup plus individuelle que ce qu'on le croit. Il faut avoir peur de ce genre d'études qui généralisent. Mmh. Je le dis vraiment très sérieusement, ça me touche personnellement.
Non, oui, non, mais vraiment. Il ne faut pas non plus bouffer des épinards à vie, quoi.
Exactement. Mmh. Et il faut se fixer son propre régime alimentaire avec ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et arrêter de suivre tous ces.
Et puis je dirais même à certains âges.
Dictateurs de la bouffe, quoi.
Et moi je dirais surtout à certains âges, parce que ce que tu bouffes enfant, ce que tu bouffes ado, est-ce que tu bouffes adulte
et plus âgé, c'est complètement différent.
Tout à fait.
Et ton rythme et tout.
Pour un peu mettre une nuance, on va dire quand même, ce ne sont pas des gourous illuminés amateurs
tofu. Non,
tofu,
c'est des scientifiques.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est des chercheurs.
Hein. Oui. Ce sont des scientifiques et c'est pour ça que je veux nuancer. C'est que c'est des scientifiques qui ont mené une étude qui prouve que pour aller mieux dans certains cas de maladies précise. Mmh. Effectivement, la suppression ou la diminution des protéines animales dans l'alimentation peut être bénéfique. Tu vois, c'est là où est la nuance.
Mais je pense qu'aussi, tout est relatif parce qu'il n'y a pas uniquement la nourriture, certes. Bon,
non, il y a tout un cadre de vie autour.
L'environnement, oui. Mmh. Si tu prends ton repas à 200 à l'heure devant un plateau télé ou entre deux, pose avec ta PlayStation.
Il y a ça aussi. Et je pense qu'il y a aussi tout ce qui entraîne toute cette industrie agroalimentaire aussi, je veux dire, pour qu'on ait tous nos hamburgers dans nos McDo, je veux dire, il y a aussi un élevage surintensif.
Non, mais attention à nuancer, quoi. Il faut pas sortir de ce film en disant ah oui, bon bah je mangerai plus jamais de viande, quoi. Enfin, jamais de la vie. Faut faire hyper attention à ça et il faut pas s'en servir comme le titre là, la santé dans l'assiette. Rien que ça m'a hérissé le poil, quoi. Je me suis dit mince. Attention, il faut être prudent, quoi, là-dessus.
Ouais. Ah, non, mais il faut être prudent. Mais je crois qu'il y a une rencontre après, non ?
Il y a une rencontre avec des naturopathes. Non, mais justement, il y a une rencontre avec des naturopathes et j'ai peur. Il y a aussi des gens dans ce genre de profession qui sont un peu extrémistes qui se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. Non, mais on est d'accord.
Ah oui, mais
donc
tout à fait.
Pour eux, les animaux, c'est quand tu nourris une vache pour justement avoir tant de steaks. On l'a déjà tous vu, cette image qui circulait. Enfin bon, c'est nuisible à la planète, quoi.
Ah, mais on est d'accord. Moi, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. C'est plutôt pas très bon de se nourrir qu'avec des protéines animales. Il faudrait avoir des protéines végétales, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Il faut faire attention à ce genre de choses.
C'est comme la haute ceux. C'est la voie du milieu. Ni trop de légumes, ni trop de viande.
Donc voilà, attention à ce film, attention aux naturopathes derrière, attention aux rencontres de l'écologie au quotidien.
Pas du naturopathe, non ?
Oui, c'est Anne Portier et Carole Joly.
Oh bah si, c'est Carole Joly.
Tu connais pas ?
Non, je peux pas parler, c'est intime.
Moi non plus, je connais pas, c'est pas des gens d'ici a priori.
Pardon, excuse-moi de te couper. Là. C'est quel jour là la rencontre avec les naturopathes ?
La santé dans l'assiette, ça passe à 20h30 le dimanche 26 et c'est donc à cette séance-là que tu auras la rencontre avec les naturopathes.
D'accord.
Pour ce qui est donc de Hors-Champ, le troisième film, c'est un film documentaire, encore une fois, de Marianne Esteb, donc qui a été financé, qui a été auto-financé par Madame Esteb, autoproduit, qui est un film sur les personnes électrosensibles, donc c'est des personnes qui sont allergiques aux ondes
portables, wifi,
même
des fois réseau
électrique et tout.
Pires, ouais.
Vous pouvez voir le teaser sur internet.
Oui, tout à fait.
Le teaser,
yes.
Sans les ondes.
Moi, j'avais fait une interview pour RDY justement d'une nana qui parlait des électrosensibles et
comment elle a réagi avec le micro.
Non, mais très bien. Elle n'était pas électrosensible elle-même.
Oui, mais moi je vois parler. Parce que là, on montre aussi donc l'exemple de plusieurs personnes.
Non, mais là, c'est poussé à l'extrême.
C'est-à-dire, oui, non, mais je veux dire, il y a des gens comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont plus que 2,4% du territoire français pour habiter. Et encore,
ils expliquent que dans les 2,4%, il y a le sommet de l'Everest. pas de l'Everest.
du Mont Blanc.
Voilà, c'est ça. Et donc ils
partent en Alaska.
Et il y a une dame qui est obligée de vivre dans une grotte au fond
et
même
et
de la.
Et encore que c'est pas super top.
Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Pourquoi est-ce que.
Mais parce que
c'est la maladie du siècle.
Non,
je
c'est
pense,
pas la maladie du siècle. Non, mais je veux dire, il y a une frange de la population, certes peu nombreuse.
Tu ne risques pas d'avoir une frange, toi.
Non, attends.
Mais une frange, outrée, mais une frange libérée, oui monsieur.
Qu'on reste sérieux. Phrase, c'est toute la population qui est électrosensible. Tout le monde est électrosensible. De toute façon,
oui,
c'est mauvais de dormir avec son téléphone portable à côté de l'oreille. C'est oui, prouvé que tu dors moins bien.
Non, mais ça, etc.
Il y a des gens qui sont hyper sensibles.
Voilà, c'est ça. Non, mais moi, je veux parler des hypersensibles. C'est-à-dire que là, on est dans le règne du portable, de la Wi-Fi. Et c'est vrai que eux, tout ce qu'ils désirent, c'est avoir ce qu'on appelle des zones blanches, des zones sans ondes.
Oui, alors en plus, ça serait pas très très compliqué de dresser des zones blanches, effectivement. C'est juste parce qu'il y a des lobbies
oui, mais voilà,
de,
c'est ça. Il y a
de téléphonie
aussi ce côté.
Derrière. Mmh. Après, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils partent pas vivre en Mongolie ou... Non, mais c'est
mais si,
de
parce
dire
que
ça.
Non, mais mmh. si, parce qu'il y en a, un, j'ai vu un extrait, où carrément il part en Espagne, quoi, parce qu'il dit qu'en France, lui, il n'arrive pas à trouver. Et il. Leur gros problème, c'est aussi au niveau relationnel.
Bah ouais, et puis pour aller bosser, tu fais quoi?
Voilà, bah, c'est-à-dire qu'il y en a une qui tente de rester à Paris, malgré tout, et qui se demande si à un moment elle va devoir partir et abandonner son mari, quoi. Parce que,
bah, parce que, mais apparemment, c'est des douleurs, en fait, crâniennes qui sont assez insupportables. Fin...
Et il y a changement de personnalité et autres consoles.
Ouais, enfin, c'est assez horrible. Et donc, il n'y aura qu'une projection pour Hors-Champ. Ça sera le vendredi 24 janvier. Donc ça sera 4€, la carte n'est pas valable, attention. Et ça sera en présence de Marianne Esteb, donc celle qui a fait le film.
J'amènerai mon portable.
De Laure Birgi, je ne sais pas, de l'association Une Terre pour les EHS, œuvrant à la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité, donc ce dont je te parlais, et à la création des zones blanches. Voilà, et ça dure un peu longtemps, je crois, une heure.
Les autres durent une heure et demie, il me semble.
Oui. Non, mais pour un documentaire sur un sujet aussi... moi, j'en avais jamais entendu parler avant d'avoir l'interview.
Moi, j'avais déjà vu des documentaires
des
gens qui, justement, s'éloignaient le plus possible des zones. Et c'était déjà il y a quelques années.
Mais tu fous un peu le why.
Les
parce
premiers,
que...
c'était les Mormons.
Tu fous un peu le why parce que tu les vois dans la bande-annonce du film où ils sont... c'est pas drôle, je rigole, c'est nerveux.
Ouais,
ils sont en camping dans des endroits super reculés. Et c'est vrai que du coup, ils ont mis des panneaux avec marqué « Ne venez pas avec vos téléphones portables » parce que
oui, ils ont
moi, je débarque, je fous le why, tu vois, je me gare sur l'aire de camping-car. Je dis, mais où est la 3G, putain? Ils sont tous malades.
T'as fait ça avant l'interview?
On capte mal ici chez vous, hein.
Et ouais, ils sont tous par terre à se tenir la tête, les pauvres. Bravo, Annaëlle.
C'était moche pour l'interview.
C'est horrible parce que tu te rends pas compte, quoi. Tu sais pas ce que moi je suis greffé à mon téléphone. Mm. Enfin, mon téléphone est greffé à moi, plus exactement.
Non, mais ça met aussi ce côté d'une société qui avance,
Et il y en a qui sont malades de ça.
Voilà,
quoi.
C'est ça, qui sont malades de ça. Donc voilà, c'était aussi un peu le but, je pense, de comment ça
je
s'appelle.
Je pense que c'est
de,
pas
de
bon,
la
ça
semaine de
toutes ces ondes, ils ont peut-être raison aussi quelque part.
C'est pas bon, ça c'est sûr, c'est ce que je te disais. Tout le monde est sensible. Tout le monde est sensible, mais eux, ils sont hyper sensibles. Effectivement, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de zone où les gens puissent se reposer. Et quand je bossais dans une entreprise de vacances dont je ne citerai pas le nom, qui sont au bord de la Méditerranée et dont on parle de club, avec des gentils organisateurs et animateurs à l'intérieur.
Bienvenue à Ganasung.
C'était un peu ça. Il y avait pas mal de gens qui nous appelaient pour savoir s'il y avait la Wi-Fi et dans le club. Alors nous, on répondait très fièrement, oui, bien sûr, la Wi-Fi dans toutes les chambres, gratuitement. Et il y avait des gens qui nous raccrochaient au nez en disant, mais c'est inadmissible.
Mais oui, mais d'ailleurs, il me semble, dans les chartes pour avoir pour tout ce qui est gîte, pour avoir les étoiles.
Il faut avoir la Wi-Fi.
Il faut avoir la Wi-Fi.
Avoir
ce
la
qui
wifi
fait que j'ai
à partir
des amis,
de la troisième voilà, étoile, ouais.
J'ai des amis qui font des gîtes et qui ne peuvent pas avoir une
étoile
de plus parce qu'eux, ils ne veulent pas rentrer dans ce truc de Wi-Fi. Donc, vraiment plus à l'écart du
jeu. Ouais, bon, on marche un peu sur la tête parce que tu prends dans certains services, je ne sais pas si dans tous les services des grands hôpitaux, c'est comme ça. Maintenant, les infirmières, avant, tu les voyais passer, elles notaient tout à la main. Toi, c'est les résultats
ouais.
de
maintenant,
elles
ont les tablettes.
Ouais, elles ont des tablettes, des ordi, et tu vois la borne Wi-Fi qui est dans le couloir, quoi.
Ouais.
Donc après.
Oui, et il y a même une époque où tu n'avais pas le droit de mettre ton téléphone portable dans les hôpitaux parce que les ondes pouvaient brouiller les appareils. Mmh. Ouais. Ma cache, t'as vu, effectivement, elles ont toute la Wi-Fi, elles sont toutes en train de téléphoner avec leur portable.
Bah oui, elles tweetent.
Il n'y a rien de. Non, mais oui, donc il y a.
Donc c'est
problème.
Pour ça.
Quoi. Bref, voilà, donc hors champ. Allez, ouais. Donc les rencontres de l'écologie au quotidien, plus Suzanne, allez au cinéma cette semaine, ça va être bien.
Voilà, et bien sur ceci, on va se préparer pour la semaine prochaine où nous parlerons de Dieu. Voilà, Dieu et le cinéma, Cécile B. 2000. Voilà. Voilà. Oh. Eh ben, bravo les gens. Bravo les, mes petites voyées.
Adieu.
Adieu. Au revoir, vous étiez sur le 107.5 www.3.fr.
Qu'avez-vous encore fait à Gladstone ?
Ricinus communis, dont le fruit est fort toxique.
C'est à peine s'il respire encore.
Voilà une occasion à ne pas rater. Ceci devrait faire merveille. Pardon, est-ce que cela vous contrarie si je teste mon extrait surrénalien ?
Combien de fois allez-vous encore tuer mon chien, Holmes ? Il a surgi comme un diablotin.
Il m'en faudra peut-être une dose dans quelques heures.
Disons que ce sera votre cadeau de mariage.
Life is like a box of chocolates.